Amen. Vous savez, je suis à la fois très heureux de vous retrouver, vous tous qui avez choisi de passer ce culte à Créteil, et puis j'ai une responsabilité, celui de vous apporter une parole de Dieu. Je sais que vous avez votre Bible avec vous, je sais qu'il vous arrive de la lire, quotidiennement peut-être pour les plus vaillants d'entre vous, c'est en tout cas, je pense, un bon conseil, mais je ne crois pas, ne me faites pas croire que tous les jours, la Bible vous parle de façon prophétique en vous révélant des choses sur votre vie. Des fois, vous allez dans le texte, que ce soit sur le smartphone ou si c'est une ancienne formule, comme moi, une bonne Bible sur une petite boîte, un petit quelque chose sur lequel elle est posée. Vous prenez votre Bible, vous l'ouvrez ou bien vous prenez l'application et vous dites « Seigneur, parle-moi ». Et des fois, ça vous parle plus que d'autres. Et parfois, il y a carrément une pensée qui traverse et un mot qui jaillit du texte et qui vous parle. Et c'est ce que j'ai sur mon cœur aujourd'hui. Alors, soit ce message va vous parler, soit il ne vous parlera pas du tout, mais ne vous laissera pas indifférent. C'est-à-dire, pour certains, ça va tomber complètement à côté, parce que peut-être vous n'allez pas vous sentir touché, parce que c'est une parole qui est très prophétique. On ne va pas analyser aujourd'hui une personne, comme j'ai souvent l'habitude de faire, avec ses failles, ses faiblesses, ses points forts. C'est quelque chose de prophétique. On va prendre un texte qui est un texte prophétique, c'est-à-dire, voici ce que Dieu dit. Et si vous êtes concerné, c'est très fort. Mais si vous êtes concerné. Pour terminer mon introduction, le texte que j'ai eu à cœur de vous parler, c'est le texte de Jérémie 31. Jérémie 31, si vous êtes déprimé, le livre de Jérémie est à éviter. Quand vous n'allez pas bien, que vous êtes un peu mélancolique ou morose, je vous déconseille de lire le livre de Jérémie. Pourquoi ? Parce que du premier chapitre au 52e, je crois, c'est parole contre la Syrie, parole contre ceci. Vous avez abandonné. Et c'est une série de catastrophes, de catastrophes et de catastrophes. Et comme il a fait 52 chapitres, il vivait dans une période qui était terrible pour le peuple d'Israël. C'est vers l'an 600 avant Jésus-Christ. C'était une période extrêmement sombre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi une diapo très sombre. Je vous ai mis un fond noir parce que globalement, c'est très sombre le livre de Jérémie. Si bien qu'au bout de 52 chapitres, qui étaient déjà assez déprimants, il a rajouté un autre livre, Lamentation de Jérémie. Au moins, c'était plus honnête. On sait. Mais dans ces moments de sombre totale, Dieu donne des paroles de vie comme des lumières qui transpercent l'obscurité. Quand je vois un petit peu la société aujourd'hui, tout le mal que vous dites de François Hollande, tout le mal que vos collègues disent de l'économie, des crises, etc. Et des fois, le mal que l'on dit des églises et de rien qui va, puis c'est de la faute d'un tel. C'est facile de critiquer, de dire qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et pour les pasteurs, c'est pareil. Et en fait, j'étais sur le point de vous préparer un message, comme beaucoup de pasteurs, dont moi, pasteur assemblée de Dieu ou pasteur évangélique, ont l'habitude d'apporter en insistant sur ce qui ne va pas chez vous, c'est-à-dire votre orgueil, les fois où vous êtes un peu dans le mensonge, les tentations de convoitise, les colères, etc. Et puis on fait la liste et je suis sûr que ça va vous parler parce que c'est toutes les choses qui ne vont pas chez vous. Et oui, il y a du boulot avec ça. Mais alors que j'étais en train de préparer un message comme celui-ci, Dieu m'a dit, mais est-ce que tu me demandes mon avis sur ce que je pense d'eux ? Je dis, Seigneur, dis toujours. Eh bien, tu vas dire aux hommes et aux femmes qui fréquentent cette église à Créteil, tu vas leur dire, je pense beaucoup de bien de vous. Je dis, Seigneur, ce n'est pas très vendeur ça, parce que ça va paraître un petit peu comme à l'eau de rose et je ne veux pas faire un message qui soit, vous avez du mal à accepter les compliments. Regardez, quelqu'un vient vous voir et vous dit, t'es joli aujourd'hui. Oui. On aime bien, mais on a du mal à les accepter. Et quand quelqu'un dit « je t'aime » au début, c'est à la fois bien, mais c'est dangereux parce qu'on se dit « tu veux quoi derrière ?» Et là, il n'y a pas de « mais » derrière. Et Dieu pense du bien de vous, à vous qui avez choisi aujourd'hui d'être dans ce lieu. Et j'ai reçu, je pense de la part de Dieu, une pensée positive sur trois types de personnes qui sont venues aujourd'hui. Désolé pour ceux qui ne font pas partie de cela. J'ai une pensée pour les mamans dont un enfant, probablement un garçon, un fils, s'est éloigné de Dieu, et une maman qui pleure pour son gars qui est loin de Dieu. J'ai une pensée prophétique pour un homme plutôt jeune, mais bon, c'est très relatif, qui a connu le Seigneur quand il était gamin, savait quel était le plan que Dieu avait prévu pour lui, mais a choisi par autonomie, aussi par orgueil, de s'éloigner de Dieu. Et tu reviens aujourd'hui sur la pointe des pieds avec à la fois un peu de regret, un peu de remords, et tu as du mal à te lâcher et à vraiment te sentir à l'aise dans une église. Et la troisième personne pour laquelle j'ai une pensée prophétique, ça concerne des jeunes filles célibataires dans cette église qui aiment le Seigneur. Premier, vous avez un message. Le premier message dans Jérémie 31, la vidéo ne me perdait pas là. Vous avez été parfait depuis le début de la journée. Je vous fais confiance. Non, juste avant. Une parole prophétique de Dieu pour les mamans. Une parole prophétique de Dieu pour les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle qui ont un enfant qui s'est éloigné de Dieu? On lit le texte, c'est l'image suivante. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. C'est Rachel qui pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Waouh ! Ça plombe dès le début. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez où c'est Rama ? Non, vous ne savez pas où c'est Rama. Est-ce que vous savez où c'est Drancy ? 93, Drancy, vous voyez où c'est ? Ok, ben Drancy, c'est comme Rama. Si vous prenez Drancy en 1940, c'est comme Rama en l'an 597. Drancy, la ville du 93, avait été choisie par le gouvernement de Vichy pour être le centre de détention dans lequel on rassemblait les hommes et les femmes, mais c'était essentiellement des hommes, qui allaient partir pour la déportation. Il y avait dedans, et là c'était des familles entières, c'était les familles juives, mais il n'y avait pas que non plus des familles juives, il y avait aussi des prisonniers politiques, et il y avait aussi des hommes qui refusaient de faire le STO, le service obligatoire, qui était imposé par l'Allemagne nazie. Et dans ces trains qui partaient de Drancy, Drancy étant une plaque tournante, quand vous voyez la ville de Drancy, en fait, vous voyez que c'était là que passaient les chemins de fer qui allaient direction vers l'Allemagne, vers les pays de l'Est. Et donc de Drancy partaient des convois réguliers. Et si vous habitiez dans les alentours de Drancy en 1940, vous auriez entendu la voix de toutes ces mamans qui pleuraient leur gars qui partait dans un train dont on n'était pas sûr qu'il reviendrait un jour pour un pays étranger. Et c'est exactement le même contexte, celui que vit le texte de Jérémie en l'an 597. Le roi de Babylone va faire une rafle qui va récupérer 10 000 jeunes garçons, 10 000 jeunes hommes qui vont être embarqués, parqués dans la ville de Rama avec des barrières autour, et les mamans venaient auprès des barrières et criaient à leurs fils les derniers mots avant que leurs fils soient envoyés en captivité vers Babylone. Et d'ailleurs, vous en connaissez, vous ne connaissez pas les 10 000, je ne connais pas le prénom de ces 10 000 jeunes hommes qui sont partis en captivité, mais j'en connais au moins 4 parmi ces 10 000 parce qu'il y avait un certain Daniel, celui qui, quelques années plus tard, gardera sa foi même face au roi dans la fosse aux lions. Il y a un certain Shadrach, Meshach et un autre qui s'appelle Abednego, trois enfants qui ont grandi en captivité, embarqués alors qu'ils étaient ados et qui vont tenir même dans une fournaise parce qu'il y a un ange de l'Éternel qui sera près d'eux et qui vont revenir un jour. Et je voudrais vous dire que c'est quelque chose de prophétique qui concerne les mamans. Voici ce que Dieu déclare. On entend la voix des mamans qui pleurent à Rama. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait exactement 34 ans que je suis dans des églises évangéliques. Et vous prenez n'importe quelle église évangélique en France. Je ne peux pas parler pour les autres pays, mais je peux parler pour la France. 34 ans que je constate que sur nos jeunes garçons, il y a une déportation lorsqu'ils ont 15 ans. Vous allez dans n'importe quelle église de France, que ce soit une église de province ou une église parisienne, allez à Porte Dorée, allez au Point du Jour, allez à ICC, allez dans toutes les églises, c'est pareil. Vous allez voir, il manque une grande partie des jeunes gars. Ils sont partis parce que l'adversaire de leur âme a les mêmes techniques qui existaient déjà au temps du peuple de Dieu en Israël. Il embarque en priorité les jeunes hommes. Et c'est pour ça que dans les églises, c'est un fait, et c'est vraiment prophétique, mais il dit, voilà ce qui se passe, il y a des mamans qui pleurent parce que le jeune gars n'est plus au Seigneur. Leur jeune gars est parti loin de Dieu. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais je peux parler de ce que j'ai vécu dans ma famille, et ma famille ne déroge pas à la règle. J'ai une grand-mère qui s'appelait Françoise Charles. Elle a eu deux enfants. Elle a fait un mariage. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de chrétiens dans son église, mais elle était dans une petite église baptiste. Et il y en avait pas beaucoup. Et puis son cœur, honnêtement, ne s'est enflammé pour aucun des quelques chrétiens qu'elle avait rencontrés. Mais un jour, elle a vu un jeune homme charmant qui l'a bien courtisé, qui était mon grand-père, qui n'avait rien de chrétien d'ailleurs. Il avait été honnête, il a dit « je ne suis pas chrétien, moi ». Et Françoise a beaucoup hésité pour lui dire oui, puis finalement elle l'a épousé parce qu'elle a suivi son cœur. Et elle a une vie dure, parce que mon grand-père n'a pas du tout été facile à vivre. Et pendant de nombreuses années, ma grand-mère a essayé d'élever avec Dieu, selon Dieu, ses deux enfants, ma maman et puis mon oncle, un autre fils. Et il s'est passé ce qu'il se passe dans la plupart des familles. Et ça existe depuis l'an 597. C'est que le jeune gars est parti en vrille à l'époque de l'adolescence. Et ça, vous le retrouvez beaucoup. Et c'est quelque chose, c'est comme une hémorragie qui existe en permanence et on ne fait pas grand-chose dans les églises pour arrêter ça. Et l'adversaire vient, il rafle les jeunes garçons. Alors, quelques années après, vous avez une maman qui pleure, qui est sur ses genoux et qui dit « Seigneur, ramène-moi mon fils dans ta maison. » Voici la parole prophétique. Rachel ne se laisse pas consoler. Peut-être quelqu'un est en train de dire « Mais c'est trop tard, il est parti, j'ai fait mon deuil, je ne le reverrai plus. Tant pis, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé, c'est fini. » Regardez le verset 16. « Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, tes fils reviendront du pays ennemi. » Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne une maman qui prie pour son gars qui est loin de Dieu. Et Dieu dit, j'entends cette prière et je suis en train de travailler pour que ton fils revienne. Et quand je pense à ma grand-mère, je suis tellement heureux de savoir le jour où son fils, qui était loin de Dieu, a fait une conversion spectaculaire suite à un accident de la route. Il a été sauvé miraculeusement de la part de Dieu et il est revenu à ceux qu'il avait connus quand il était plus jeune. Il a tourné, bifurqué, il est devenu pasteur. Et aujourd'hui, ma grand-mère n'est plus allée dans le ciel, mais elle a plusieurs petits-enfants qui sont pasteurs. Parce que Dieu dit, je te ferai revenir les fils. Ce n'est pas revenu en un an, ça a pris des années et des années. Mais quand Dieu entend le cri des mamans à Rama qui crient pour leurs enfants, la prophétie de Dieu, et c'est vrai pour nous particulièrement, et je le prends comme ça à Créteil, Dieu veut commencer par les mamans qui ont des fils qui sont loin de Dieu, et Dieu veut ramener vos enfants. Mais il y a un deuxième message, et c'est le verset d'après. C'est le verset 18. Verset 18, deuxième message. Vous avez un message, vous, les jeunes hommes. Je sais qu'il y a des jeunes hommes dans la salle. Parole prophétique de Dieu pour les jeunes hommes. C'est l'image d'après. Voici ce que Dieu dit. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit et qui dit « Tu m'as châtié, j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Wow! Là, je parle d'un gars qui est dans cette salle aujourd'hui ou qui écoute ce message sur Internet et qui a envie de revenir à Dieu, qui regarde dans le rétroviseur et qui se dit « J'ai connu ça quand j'étais plus jeune. » Je crois qu'il y a une fierté chez les garçons. Je ne vais pas dire que c'est de l'orgueil, je vais dire que c'est de la fierté qui fait que pour un gars, je pense que c'est plus dur de revenir dans une église. Parce que pour un homme, arriver dans une église dans laquelle, à 12 ans, il a dit « Seigneur, je t'aime », il était touché au camp d'ado, il était touché. Et après s'être éloigné de Dieu, il doit marcher sur sa fierté pour pouvoir revenir dans l'église. Et beaucoup d'hommes qui ont, ils essayent de revenir à l'église, ils se disent, Seigneur, je me suis pris des claques, tu m'as châtié, c'est clair que j'ai échoué dans la vie sentimentale, les études, ça n'a pas tourné comme je voulais. Au début, quand on est un jeune gars, on veut être indomptable. Tous les jeunes gars qui vont goûter un peu dans le monde, ils se disent comme Éphraïm. Éphraïm, c'était une des tribus les plus puissantes d'Israël. Et c'était une tribu qui se disait, on a vécu des montagnes, on a vécu dans la montagne. On est capable, on est des durs, on est des coriaces, on arrivera à s'en sortir tout seul. Comme ils étaient, c'était dans la région la plus montagneuse d'Israël, ils avaient pris l'habitude de se dire, tu t'en sortiras tout seul. Si bien qu'ils ont abandonné Dieu en partie et ils se sont dit, on va faire un peu notre synthèse, on va aller dans le monde, on va aller un petit peu avec Dieu, on va garder nos valeurs. Et puis en final, ils sont complètement partis. Ils sont complètement éloignés de Dieu et la tribu a été déportée. Et voici ce qu'il dit, tu as fait le malin. Tu as cru, quand tu avais la morale que faisait ta maman te disait « Mais non, continue à lire ta Bible, mon fils !» À un moment, tu lui as fait comme un taureau de cow-boy qui fait du rodéo, tu as mis une ruade dans la figure de ta maman. Et puis quand il y a eu deux ou trois qui ont essayé de te dire « Fais gaffe, tu es en train de mal tourner », tu les as envoyés paître. Tu leur as dit « C'est bon, laissez-moi tranquille. Moi, j'arrive à faire... Moi, je vais tourner comme je veux, je vais me débrouiller tout seul. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Tu as fait le malin, tu as dit « Ne vous inquiétez pas pour moi. » Et puis, il y a un jour où, peut-être, il y en a certains qui ne sont pas encore là, mais je parle de ceux qui sont déjà en train de revenir, qui ont été faire un petit tour dans le monde, qui ont essayé de goûter à ses plaisirs et qui reviennent amers. Regardez le verset d'après. Je m'étais détourné, mais à présent, je le regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même, je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui n'était guère honorable. Je vais vous parler de Marc. Marc, lorsque je l'ai vu dans l'église de Créteil, je l'ai vu revenir, mais sur la pointe des pieds, mais rempli de... Enfin, super discret. C'est le genre à se mettre au fond de la salle et pas très visible. Il ne voulait pas que les gens le voient parce que, en fait, son ex-femme venait ici. Je dis son ex-femme parce que, alors qu'il était jeune, je ne sais pas quel âge il s'était marié, 18 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, Dieu lui envoyait une femme extra. Belle, intelligente et super gentille. Et il a pris comme un cadeau de Dieu, il s'est marié, ils étaient heureux. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris à Marc. Mais un jour, il a tout planté pour suivre une chimère, pour suivre un rêve. Il s'est éloigné de Dieu, il a planté sa famille, il a abandonné l'église et il est parti comme un veau indomptable pour faire le malin et faire ses cabrioles. Et lorsque je l'ai revu arriver, c'était un Marc cassé, brisé, qui n'avait qu'une seule chose dans son rétroviseur, des regrets. Et qui disait, Dieu, je voudrais revenir, mais je ne sais même pas si j'ai la force. Parce que c'est un gars, et parce que pour marcher sur sa fierté, c'est très dur. Et je dis, wow, comment ça va évoluer cette situation? Il y a un mot qu'on utilise dans les églises, on dit les rétrogrades. Je déteste ce mot, vous ne m'entendrez jamais employer ce mot-là. Ça veut dire les gens qui sont tombés. Qui ont lâché. C'est comme si on mettait une marque de flétrissure, comme au Moyen-Âge, au fer rouge en disant « T'as lâché le Seigneur, t'es un rétrograde. » Et c'est très dur, parce que dans les églises, on parle sur les rétrogrades et c'est comme si on faisait une catégorie spéciale. Il n'y a pas le mot rétrograde dans la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu voit les êtres humains que par grâce. Il n'y en a pas un seul qui soit juste, pas même un seul. Ils ont tous besoin du salut. Et je vois ce Marc qui porte le poids de son péché et qui s'installe à l'autre bout de la salle par rapport à son ex-épouse. Et je vois progressivement Dieu qui lui parle de dimanche en dimanche. Regardez ce que Dieu dit. Parole pour un gars qui veut revenir au Seigneur, c'est le verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi? Et Dieu, faisant sa propre psychanalyse, c'est-à-dire Dieu s'analyse lui-même, il dit, c'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui, je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Alors, je sais que vous êtes un petit peu fatigué et ça vous demande de la concentration, mais essayez de voir cette phrase. Dans la version second, Summer, c'est peut-être traduit différemment, mais en hébreu, c'est vraiment sous forme interrogative, ce qui vous oblige à vous concentrer juste deux minutes. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir pour qu'à chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi. Ce que Dieu dit, c'est que ce que tu as fait lorsque tu t'es éloigné de Dieu et qui n'était pas honorable, mériterait que des reproches. Mériterait qu'on parle sur toi. D'ailleurs, il y en a plein d'autres dans l'église qui ont parlé sur toi. Peut-être les personnes que tu as abandonnées ont parlé sur toi. Ce que tu as déçu ont parlé sur toi. Peut-être ta mère a dit, mais franchement, ce garçon, c'est un raté. Parce qu'à un moment, tu t'es éloigné et tu méritais vraiment que des reproches. Mais quand tu reviens sur l'église, à l'église, la tête baissée, et que tu t'installes comme Marc s'est installé sur sa chaise, il s'attend encore à se prendre des coups de la part de Dieu. Mais voici ce que Dieu dit. J'arrive pas à parler en mal de toi. Parce qu'à chaque fois que je voudrais parler en mal de toi, dit l'Éternel, il y a un souvenir, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme si le cœur de Dieu n'arrive pas à être fâché contre toi. Le cœur de Dieu est tellement dans la compassion et tellement d'amour, il dit, mais il ne le mérite pas, mais je l'appelle quand même mon fils chéri. Il ne le mérite pas, mais je n'arriverai jamais à prononcer une mauvaise parole sur lui parce que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Est-ce que tu comprends, jeune gars, qu'à chaque fois que Dieu pense à toi, même quand tu es en train de faire n'importe quoi et que tu es juste rempli de péché dans ta boue et que tu reviens un petit peu à l'église, ce pas-là, Dieu il dit, mais j'arrive même pas à t'en vouloir, je suis en train de te dire, viens. Comme ce que Jésus décrit, Jésus le décrit dans le Nouveau Testament. Il dit, il y avait un papa qui avait un fils qui a fait n'importe quoi. Et quand il revient à la maison, ce fils prodigue, là, tout le monde veut lui faire la peau. Demander au grand frère, le grand frère lui dit, mais attends, mais fais-lui un bon coup de morale quand même, il revient, il se pointe là, alors qu'il a tout dilapidé. Et on est nombreux à être des fils aînés. Mais Dieu dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie, faites-lui un méga banquet. Il y a zéro condamnation, il n'y a même pas un gramme de morale que Dieu fait. Me dites pas que c'est juste ou pas juste, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu pense d'un gars qui est en train de revenir au Seigneur. Dieu pense d'un gars qui est en train de revenir au Seigneur en disant, si j'essayais de penser en mal de lui, j'arrive même pas. Parce que je me rappelle tellement ce qui s'est passé quand il avait 12 ans et qu'il m'a dit, viens dans ma vie, que Dieu n'arrive même pas à être fâché contre toi alors que tu mériterais, oui, un savon, mais il ne le donnera même pas. Parce que Dieu ressent tellement de compassion pour toi et se dit, mais ce gars-là, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il était en train de rater sa vie. Mais mon fils est en train de revenir dans la maison. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Bienvenue dans la maison. Puis j'ai une dernière pensée qui concerne cette fois-ci les jeunes filles célibataires. Parole prophétique pour des jeunes femmes. Voici ce que le verset d'après dit. À propos des jeunes femmes. Vous êtes encore là, c'est bon ? Dresse-toi des poteaux indicateurs. Place des points de repère. Prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Ce verset concerne les jeunes femmes qui sont restées fidèles au Seigneur. Et c'est un conseil. Fais gaffe. Lorsque tu es chrétienne et que les années passent et que ton célibat devient pesant, Dieu te donne un conseil. Il dit, mets-toi des bornes, des limites. Que tu décides de ne pas franchir des valeurs sur lesquelles tu restes intransigeante. Parce que naturellement, tu vas être tenté et tu vas avoir du succès auprès de personnes qui sont sans Dieu et qui vont te proposer de faire un petit tour avec eux. Ils vont t'ouvrir la porte et ils vont dire « Viens chez moi ». Ils vont faire un tour, mais le seul tour que tu vas faire avec eux dans la voiture, c'est un tour de rond-point. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on fait un tour de rond-point ? Un rond-point, c'est quand même fort. Parce que, à part le fait de tourner en rond, mais ça vous rendrez compte plus tard, vous vivez des sensations dans un rond-point. Dans un rond-point, les pneus crissent, il se passe quelque chose. C'est plus la monotonie. Dans le rond-point, il y a une force centrifuge qui nous fait vivre des émotions. Et dans un rond-point, on a un peu la tournée. Mais dans le rond-point, on n'avance pas. On n'avance pas. Et il va y avoir des gentlemen très bien attentionné pour vous faire un tour de rond-point. Et qui vont te dire, regarde, t'es pas valorisé, puis toutes tes histoires de bon Dieu, là, c'est bien sympa, mais t'es seul, viens avec moi. Je vais te faire un tour, un vrai tour de vie. Et le truc, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le tour de rond-point, ils ouvrent la portière et toi, tu sors. Parce qu'ils prendront quelqu'un d'autre pour faire un autre tour de rond-point. Si tu bâtis pas avec quelqu'un qui veut aller quelque part droit avec Dieu, tu vas faire des tours de rond-point. Je ne suis même pas dans la culpabilité par rapport à toi. Je ne suis même pas en train de te dire, oh, mauvaise fille, tu as fait un tour de rond-point, etc. Et Dieu dit simplement, reviens. Reviens, jeune fille d'Israël. Il n'y a pas de condamnation pour toi, mais reviens parce que Dieu a prévu mieux pour toi que faire des tours de rond-point. Il y a des bornes. Fixe-toi des limites. Oh, au début, je vais te dire ce qui se passe. C'est qu'au début, il va t'inviter à Hippopotamus. Il n'y a rien de tentant là-dedans. Ce n'est pas un endroit sexy, Hippopotamus. Tu vas te dire, oh non, mais ça va, pasteur, je contrôle, quoi. J'ai une borne à Hippopotamus, midi 20. Qu'est-ce que tu veux? C'est un inconverti que ça, mais bon, c'est pas hyper dangereux. Non, c'est pas hyper dangereux, Hippopotamus. Mais il ne va pas s'arrêter à Hippopotamus. C'est rare, les gars, qui sont vraiment Hippopotamus à long terme. Il va essayer de trouver mieux, quand même. Il sait que tu es chrétienne, il va dire, waouh, elle a des valeurs et tout, je vais y aller. S'il est malin, parce que j'espère que ça va être un malin quand même. Mais méfiez-vous du malin. Il va vous faire aller petit à petit et il va vous dire, écoute, ta borne, elle était là. Donne-moi un mètre de plus pour ta borne. Ton panneau indicateur, déplace-le un tout petit peu. C'est des histoires un peu strictes là. T'es un peu une bonne sœur quand même. Tiens, pousse jusque là. Et Dieu te dit, fais gaffe. Parce que tes panneaux indicateurs, c'est ce qui te sauve. Moi, je sais à titre personnel que si j'acceptais de sortir avec une fille qui n'était pas chrétienne, je ne savais pas où j'allais arrêter, donc j'ai pris comme résolution moi, dans mon cœur de dire « je ne prends même pas le risque, j'y vais pas ». Ça, c'était moi. Maintenant, je ne vais pas être comme ces pasteurs qui vous donnent des règles en disant « c'est interdit d'aller ». Je ne sais pas, ce n'est pas marqué dans la Bible. La Bible ne parle pas du cinéma, la Bible ne parle pas d'Hippopotamus, la Bible ne parle pas des boîtes de nuit, la Bible ne parle pas de ça. La Bible dit « je vous ai mis le Saint-Esprit dans vos cœurs, qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement, et que les règles, elles sont personnelles. Vous devez fixer vos limites comme un deal avec Dieu en disant « Seigneur, c'est ça que je suis, c'est ça mes valeurs, et ça je ne dépasserai pas cette borne-là. » Et la borne que tu te fixes n'est pas valable pour ta copine, n'est pas valable pour l'autre copine, elle est valable pour toi. Et ce que tu décides dans ton cœur, tiens-y, accroche-toi à cela. Parce que sinon, tu feras un petit tour en voiture, peut-être 2-3 tours de rond-point, tu seras juste amer, tu te sentiras arnaqué, et tu seras encore plus négatif, c'est tout ce que tu seras, et célibataire. J'ai peur de ce que je vais devoir vous dire après. Parce que le verset après, il est presque gênant. C'est la fin du verset qui va un peu vous dire, mais c'est... bon, je vous le lis quand même. « Jusqu'à quand resteras-tu dans l'errance ?» Donc ça, c'est ceux qui font des tours de rond-point lorsque tu es une fille rebelle. « En effet, l'Éternel... » Il y en a qui vont me dire « Remboursez, pasteur. Remboursez-nous. Pourquoi les mamans, elles ont des belles promesses ? Les jeunes hommes, ils ont des belles promesses. Et nous, on a juste un truc bizarre. » En effet, l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La jeune femme tourne autour de l'homme. C'est pas terrible, ce truc. Et là, je dis, waouh, Seigneur, ne me permets de ne pas aller devant l'église de Créteil si je n'ai pas mieux à leur annoncer que juste ça. Parce que je vais me prendre des tomates s'il y avait des tomates dans l'église à disposition sous les chaises. Non, heureusement, il n'y a pas de tomates sous les chaises. Et je vais essayer de justifier. Voici le mot de Dieu. Attention, des fois, il faut plus fouiller pour avoir le droit d'accès au trésor. Ok? Il y a rarement des trésors en surface dans la Bible. Les trésors, il faut aller les chercher, il faut creuser un peu. En fait, je me suis dit, ça veut dire quoi ? Prenez les livres de doctrine, vous lisez les commentaires que vous avez en dessous de votre Bible, là, si vous avez la Summer, la Second, la Thompson, vous lisez et ils vont vous faire une allégorie. C'est marrant parce qu'il n'y a que pour les jeunes filles qu'on fait une allégorie. Pour tous les autres, c'est au premier degré, mais pour les jeunes filles, c'est une allégorie. Il faut croire. Bon. Il dit, oui, la jeune femme, c'est l'image d'Israël, la communauté d'Israël, et l'homme, bah, c'est le Messie. Ça veut dire qu'un jour, Israël cherchera le Messie. C'est bien gentil. Mais moi, ça me laisse quand même un goût d'inachevé. Et je me dis, pourquoi le Seigneur parlerait à tous en live, en direct, en cash, mais quand c'est une jeune femme célibataire, ça serait allégorique. Alors, j'ai essayé de voir dans la version Chouraki, c'est un juif qui traduit, donc c'est traduit directement au mot à mot depuis l'hébreu, et ça donne ceci. L'Éternel crée une chose nouvelle, une femme singulier tourne autour d'un homme de valeur. Est-ce que vous rappelez où ces paroles prophétiques ont commencé ? Ces paroles prophétiques ont commencé avec Rama, une maman qui... Pourquoi la maman pleure ? Parce que ses fils ne sont plus. Expliquez-moi ce qui se passe quand 10 000 hommes quittent les églises. Eh bien, il y a un double effet. Premièrement, il y a 10 000 mamans qui pleurent parce que leur gars n'est plus chrétien. Mais il y a également 10 000 filles qui vont rester célibataires parce que les gars ne sont plus là. Je suis contre la polygamie et Dieu également. Donc, il y a bien, pour les 10 000 gars qui sont partis, un trou terrible qui fait que plusieurs années après, la conséquence, elle est dans le célibat des jeunes filles dans les églises. Et je me dis, mais Seigneur, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que tu es en train de briser cette malédiction. Voici quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les mamans récupèrent leurs fils chrétiens. Que les fils qui n'osent plus revenir dans l'église reviennent dans l'église comme Éphraïm et se tournent vers Dieu. Et une fois qu'ils se sont tournés vers Dieu, parce qu'ils auront plié le genou vers Dieu et que Dieu les aura restaurés sans tenir compte de leur passé et que vous leur aurez pas fait des kilos de morale, que vous les accepteriez juste parce que Dieu dit « J'ai compassion d'eux de façon incroyable, je ne comprends pas pourquoi, mais je les aime énormément. » Alors vous pourrez voir une troisième bénédiction en chaîne qui serait une bénédiction pour les femmes célibataires, c'est qu'il y aura un homme pour chaque femme. Et c'est ça le projet de Dieu. Et c'est ça l'aspect prophétique de ce texte. C'est que Dieu ne dit pas que tout est rose. Dieu ne dit pas « Voici, servez l'Éternel et tout sera beau. » Il dit « Je suis en train de travailler prophétiquement pour rompre cette malédiction qui s'est passée à Rama, qui fait que d'église en église, de génération en génération, l'adversaire vous vole vos gars quand ils sont jeunes. Et qu'après, les gars ont du mal à revenir à l'église quand ils ont pris quelques années au compteur. Et enfin, que les femmes se retrouvent célibataires et dégoûtées parce qu'elles disent « Où est-ce que Dieu a prévu pour nous ?» Et il y aura des hommes de valeur. Et moi, je dis, c'est extraordinaire. Alors, écoute bien, toi qui es célibataire, qui reste fidèle au Seigneur, c'est sûr que, bon, je dois aussi être honnête avec vous, c'est pas un homme qui tourne autour d'une femme, je sais que vous auriez voulu, mais la Bible, c'est pas Walt Disney non plus. Dieu n'a pas écrit La Belle au bois dormant dans un chapitre de la Bible. La Belle au bois dormant, c'est Walt Disney. Genre la fille qui fait rien, qui s'allonge, qui est sur son lit, qui dort et tout ça, qui dit « Seigneur, réveille-moi dans 10 ans ». Et le gars qui vient, qui fait le bisou, qui dit « T'es celle dont j'ai rêvé », etc. Ça, c'est Walt Disney. La vérité, c'est que c'est pas tout à fait exact. Dieu dit « Chacun va faire sa part » et ne confond pas la culture. Parce que je vois beaucoup de femmes qui mélangent la parole de Dieu et la culture, qui dit « Non, mais je pense que Dieu fera que il me demandera », etc. Ah, moi, je me moque de qui demande à qui. Du moins que tu sois marié et bien marié, c'est ce qui compte. Mais ça, vous voyez, c'est culturel. Commencez pas à dire « Seigneur, je veux que ça soit culturellement comme ça que ça se passe. » Parce que Dieu dit « Oh, je bosse pour toi. » L'essentiel, c'est que tu es un homme de valeur, non ? C'est pas qui va faire le premier pas, c'est que ce soit un gars de valeur. Je te garantis, un homme de valeur, je reste fidèle au Seigneur parce que je veux réveiller les gars, je veux ramener les gars et je veux que tu épouses un gars nickel. Mais ça, ça veut dire qu'aussi tu changes ta perception des choses et que tu acceptes l'idée que la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui est une bénédiction de compassion. Et que tu ne viennes pas du haut de Dieu en disant « il n'a pas été assez fidèle dans le passé ». Il y a un moment où toi non plus, tu n'as pas été assez fidèle. Et on n'est personne assez fidèle. Moi non plus, je ne suis jamais allé dans le monde, hein, mais je ne suis pas meilleur que les gars qui viennent comme Éphraïm et qui sont plantés graves. Devant Dieu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ont besoin de la grâce parce que sinon tu vas faire des petits pharisiens avec ton mari et ça, franchement, ça va être pénible pendant des années pour les églises. On n'a pas besoin de petits pharisiens, on a besoin d'enfants sauvés par grâce. Et c'est exactement ça que Dieu dit. Il y a une triple bénédiction prophétique qui vient sur cette église. Alors je dis, Seigneur, c'est vraiment bien, je vais leur dire ça. Mais j'étais un peu frustré parce que je ne suis pas une maman. Je n'ai pas une tête de maman. Mais je ne suis pas non plus un Éphraïm parce que je n'ai jamais quitté le Seigneur. Et je suis encore moins une jeune femme célibataire. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a pas de pensée pour moi là-dedans. Et Dieu me dit, bah, lis le verset d'après. Alors, si vous permettez, pendant les 5 minutes qui me restent, je vais juste vous dire ce que j'ai senti de Dieu par rapport à l'église de Créteil. L'image d'après, un dernier message. Une parole prophétique pour l'église de Créteil. Regardez, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Quand j'aurai ramené leurs déportés, on dira encore ces paroles dans le pays de Juda et dans ces villes, que l'Éternel te bénisse. Domaine de justice, sainte montagne. Moi, je crois qu'il y a une bénédiction de Dieu. Et j'étais touché par Dieu parce qu'il me dit, regarde, Yvan, ça fait 10 ans, et honnêtement, j'ai mis une bénédiction de Dieu sur cette église. C'est vraiment un domaine de justice et il y a une bénédiction de Dieu. Parce que le principe et l'appel de cette église, et ça avec Christophe, Jean-Émile et les premiers qui étaient là, on l'a toujours dit, c'est une église de la nouvelle chance, une église pour les déportés, pour des déportés qui viendront et qui auront été cassés, qui viendront avec un passé des fois qui n'est pas beau. Certains ont vécu dans des églises dans lesquelles ils sont investis à fond et ils ont été complètement brisés, ils ont du mal à revenir à Dieu. Puis il y a aussi des gens qui se sont ratés, mais c'était leur faute à eux. À Créteil, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi des ex-coupables. Tout est mélangé. Mais on est tous sauvés par grâce. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, en fait, c'est ça. C'est que tu me dis d'accepter chacun inconditionnellement en fonction de son passé. c'est une église dans laquelle, cette église de Créteil, la page, il n'y a rien dessus. Vous écrivez l'avenir. Dieu dit, j'effacerai leurs fautes. Je les jetterai au fond des mers et j'écrirai quelque chose de nouveau sur leur vie. Et regardez le texte d'après, verset 24. Là s'installeront ensemble les habitants de Juda et de toutes les villes, les cultivateurs et les nomades. Et ça, c'était une parole pour moi quand je relisais ça hier. Il me dit, mais tu sais, Yvan, ce n'est pas seulement la ville de Créteil. Il y a quelque chose qui est aussi une région. Je permettrais qu'il y ait des gens qui viennent d'autres villes. Et je sais aujourd'hui qu'il y en a qui viennent d'autres villes que de la ville de Créteil. Et ce seront des cultivateurs et des nomades. Je sais que vous allez me dire, vous n'avez pas des têtes de cultivateurs. Et pourtant, vous êtes des cultivateurs. Parce que spirituellement, c'était quoi les cultivateurs ? C'est ceux qui sèment, qui bossent et qui travaillent la terre, même quand c'est sec, même quand c'est dur. C'est celui qui se lève le dimanche à 8 heures pour aller installer les machines à café. C'est ceux qui font la répète de louange, c'est ceux qui sont à la vidéo et qui passent une journée pendant 8 heures à bosser derrière sans avoir un merci parce que personne d'entre vous va penser à leur dire merci comme Michael et comme Stéphie aujourd'hui. C'est ceux qui vont bosser pour vos enfants pour que vous puissiez avoir un culte tranquille. Tout ça, ce sont des cultivateurs. Ils sèment et ils ne voient pas tout de suite le fruit. Ils attendent simplement parce qu'ils donnent fidèlement leur dîme. Et il y en a beaucoup qui viennent parce que, vous savez, personne ici n'a assez d'argent par rapport à ce qu'ils rêveraient. Hein. Le jour où vous dites « je donnerai ma dîme quand j'aurai assez d'argent », tu ne la donneras jamais ta dîme. Parce que je peux te dire une chose, il y a un moment où la dîme, tu dis « Seigneur, je donne ces 10% parce que c'est la maison que l'Éternel m'a donnée et je choisis de dire « cette maison sera une maison de prière et je vais investir là-dedans ». Et le cultivateur, à chaque fois qu'il plante une graine, ça lui coûte parce qu'il ne la mange pas, sa graine. À chaque fois qu'un cultivateur met une graine dans le sol, c'est un grain de blé en moins à manger. Et c'est « j'espère que ça portera du fruit plus tard ». Et c'est ça les cultivateurs. Le cultivateur, c'est celui qui renonce aujourd'hui et qui dit « j'espère que demain, par la grâce de Dieu, on pourra récolter. » Et puis un jour, ils voient les nomades arriver. Et ça se passe en Afrique. Alors, je ne te dis pas comment ils reçoivent les nomades, des fois. Les nomades ne sont pas les bienvenus chez les cultivateurs en temps normal. Parce que les nomades, ils sont bien gentils, ils viennent avec leur petit troupeau, là. Et puis, ils s'installent, et puis, ils squattent, et puis, ils mangent. Et le cultivateur dit, mais vous êtes des rigolos, vous venez de nulle part. Vous venez d'où ? Eh bien, vous retournez là d'où vous venez. Et vous savez, quand il y a une bénédiction de Dieu quelque part, il y a les nomades, ils arrivent. Eh bien, Dieu dit, aime les nomades. Et il dit, oui, j'ai prévu que dans l'église de Créteil, je ferai venir des nomades qui viendront et vous les accueillerez dans cette ville. Ça veut dire quoi? Les nomades, moi, ça me fait penser aux chrétiens qui sont déjà à leur 4e église en 2 ans. Ils ont essayé là, du non, la nourriture n'est pas très bonne. Là, ici, il n'y a pas assez d'amour fraternel. Allez, un jour ou l'autre, vous avez peut-être été nomades aussi. Et une fois que vous avez fait un peu nomade, vous arrivez à un endroit, vous dites, oh, c'est chic ici. Et c'est ici que Dieu m'implante. Et vous vous implantez. Et Dieu dit, accueille-les comme si c'était des cultivateurs. Parce que la vérité, c'est que là, vous êtes tous globalement des cultivateurs. Dans 3 ans, en 2017, qu'on aura notre bâtiment de 5000 m² avec les 800 m², le fun park pour les enfants, le terrain de sport et tout ça. Moi, je peux vous dire, il va y avoir des chrétiens qui vont sentir tout d'un coup un appel pour venir à Créteil. Ils vont se dire, oh, Dieu m'appelle là tout d'un coup. Ils auront zéro financement là-dedans. Ils n'auront pas donné votre dîme comme vous la donnez aujourd'hui. Ils vont arriver, le bâtiment il sera construit. Et Dieu dit, tu ne feras aucune différence. Parce que la mentalité, c'est une mentalité où, dans cette ville, s'installeront ensemble des personnes. Et encore une fois, si tu donnes, dis pas, ça m'appartiendra à moi. On est là pour bâtir le royaume de Dieu, pas pour bâtir notre ferme. On est là pour que le royaume de Dieu puisse faire que, en effet, je désaltère celui qui est fatigué. Et il y a des nomades, mes amis, ils sont fatigués. Il y a des nomades qui sont crevés, ils sont à leur 4e église, mais ils espèrent vraiment trouver un endroit où se poser. Et je rassasie ceux qui dépérissent, parce que Dieu est le Dieu qui veut faire fleurir tout le monde. Et il y a une bénédiction de Dieu. Alors là, j'étais touché à ce moment où je termine ma prédication, et je dis, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as prévu. Puis j'ai lu le début du texte. Je me suis rendu compte qu'il parlait des Antilles, que le début du texte parlait de l'Afrique, qu'il allait dire que tu allais venir à Créteil, puisqu'il a dit, je les ramènerai du pays du Nord, des terres du Nord. Bon, ça, ce n'est pas pour les Antilles. Hein. Il y a quelques-uns qui viennent du Nord, il y a quelques Américains avec nous. Je les rassemblerai des confins de la terre. Quand je pense qu'on a des chrétiens qui viennent de Tahiti. Et puis, il y aura tout dans l'église de Créteil. Excusez-moi si ça vous déroge, mais là, je dis juste, je me fais ma thérapie parce que c'était la parole que Dieu m'a donnée. Alors, ça me fait du bien, je la partage avec vous, tant pis. Il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux. Ça, Yvan, il faudra que t'en prennes vraiment soin. C'est que, attention, il va y avoir des gens qui sont vraiment cassés, qui vont venir à Créteil. Il y aura des femmes encore enceintes et celles qui enfantent. Celle qui est encore enceinte, il est où l'homme? Il n'est plus là. D'accord, ok Seigneur, il faudra qu'on prenne soin de celles qui viennent et qui ont des vies brisées et qui viennent juste de rien comprendre à la vie et qui souffrent. C'est une foule immense qui reviendra ici. Est-ce qu'ils vont venir en criant, en sautant, en louant, en disant « Wouh, on arrive à... » Non, ils vont arriver en disant, en pleurant. Mais je les conduis au milieu de leurs supplications et je les conduis vers des torrents d'eau et je les conduis vers des cours d'eau, des sources d'eau, dit le texte. Vous savez, quand vous êtes blessé, quand vous êtes cassé, on va voir arriver des personnes, si c'est un aveugle, un boiteux, etc. Ils ne vont pas venir en disant « Alléluia, enfin une maison !» Ils vont dire « Peut-être qu'ici, je vais me faire du bien. » Et ils auront encore des supplications et des pleurs dans la gorge. Et, bon après, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais trop loin. Peut-être que c'est plus pour moi. Je ne sais même pas si je dois vous le partager, mais tant pis. Si j'exagère, considérez que la prédication est finie, mais laissez-moi terminer pour moi-même. C'est juste ma révélation à moi. Il dit, je les conduis vers des... Là, c'est le mot torrent d'eau, il y a le mot cours d'eau. Quand le directeur de l'urbanisme, M. Conroux, nous a reçus et nous a vidés du bureau la première fois, quand il ne voulait pas nous voir, il a dit, on ne vous a pas demandé de venir à Créteil et on ne fera jamais rien pour tout. Et que ce même directeur de l'urbanisme, après que Dieu ait touché le cœur du maire, que Dieu ait touché le cœur de Pierre Jox, et que ce directeur de l'urbanisme est venu me voir, il m'a dit, vous savez, le terrain qu'on vous propose, c'est un terrain, vous savez, au bout du lac, là où il y a la source, vous savez, là où il y a la cascade, le torrent d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est un petit signe du ciel, si c'est un petit clin d'œil de Dieu pour moi. Mais je dis, voilà, peut-être, parce que je vois que dimanche dernier, vous avez voté à 89% pour ça. Et puis, il a dit, je l'ai conduit par un chemin tout droit, aplani tout droit, où ils ne trébucheront pas. Bon, ma trouille, c'est que ça trébuche. J'ai vu trop de pasteurs qui annonçaient des trucs qui ne sont jamais venus. Et je dis, Seigneur, je vais prendre cette parole pour toi, que c'est toi qui vas conduire. Je saisis comme une parole de foi, que tu ne permettras pas que ça tombe. Et il dit, un chemin tout droit. Et je pense encore à Denise et à une autre sœur qui était là et qui me dit, pasteur, elle est où la nouvelle salle? Enfin, le nouveau terrain, pardon. Comment te l'expliquer? Alors, tu prends la route, là, la D1, là, qui est juste là, quand j'ai la D1, l'autre route qui est juste là. Et alors, tu vas tout droit. Et après? Non, c'est tout droit. Et à partir du moment où tu as rond-point, tu t'arrêtes, c'est que tu es là. Et c'est bizarre, mais la nouvelle salle, elle est tout droit. Alors, vous allez me dire, c'est la route, elle, toi, si tu vas tout droit, la route, elle va bifurquer légèrement, mais tu la suis. Toi, tu restes tout droit, tu ne mets pas ton clignot, tu vas tout droit. Et si tu vas tout droit, tu arrives à la nouvelle salle. Je dis, Seigneur, merci parce que tu as des bons projets. Parce que tu n'oublies personne. Tu n'oublies pas la maman qui pleure. Tu n'oublies pas le gars qui revient au Seigneur et qui hésite. Et tu n'oublies pas la jeune fille célibataire. On ferme les yeux ensemble, Seigneur. Merci pour tes projets, Seigneur. Tu n'es pas venu pour nous culpabiliser. Tu n'es pas venu pour nous mettre la pression. Mais tu es venu pour nous dire combien tu nous aimes d'un amour éternel. Ce même chapitre, tu dis, les jeunes filles danseront de joie. Il y a des laï qui montent vers le ciel lorsque une église est dans le plan de Dieu. Il y a d'une joie qui est créée lorsque le Saint-Esprit est en train de conduire. Alors, je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que vos vies sont faciles. Je sais qu'il y a des pleurs amers de certaines mamans. Alors, prie et ne fais jamais ton deuil de ce garçon qui s'éloignait de Dieu. Si tu es un jeune gars, tu as pris quelques années au compteur, tu reviens dans cette église, mais c'est plus pareil. Tu te sens comme le poids du passé, peut-être tu as une ex qui te rappelle de temps en temps. Tu as comme plein de liens qui te tirent en arrière. Et tu dis à Dieu, Dieu, aide-moi à revenir à toi. Ben reviens. Reviens, bienvenue dans la maison de Dieu. Reviens chez toi, sois sérieux, écris une nouvelle page, investis-toi dans l'église, décide de suivre Dieu, c'est aujourd'hui. Rate pas ton mois de septembre 2014. Et puis je pense à une jeune femme. Peut-être une jeune fille qui attend désespérément de rencontrer quelqu'un de bien. Une maman célibataire qui dit, Seigneur, est-ce que tu m'auras oublié? Il y a une triple bénédiction. Et Dieu ne t'a pas oublié. Il veut que les hommes reviennent dans l'église. Alléluia, Jésus. Si vous voulez, on va se lever ensemble. On va juste proclamer une parole de foi sur Dieu. Seigneur, ton amour, il est intarissable, inébranlable. Peut-être fermer les yeux, on va laisser l'équipe de louanges nous conduire dans ce chant.
Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. De ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi, amour. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi, amour, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi.